Bonjour et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, sur l'émission Portrait Vivant, on va parler de mission et de valeurs. On est tous motivés par des valeurs différentes. De mon côté, c'est de faire place à la créativité, à la famille, de redonner à la société. Et c'est des valeurs qui sont aussi partagées par la fondatrice de l'École d'art, Anne-Marie Lavigne. Elle a créé une école d'art pour permettre aux enfants de rencontrer des artistes, de s'épanouir, de développer leur créativité, ainsi de donner un espace à la communauté pour se rencontrer et célébrer la créativité ensemble.
Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est par la peinture.
Chaque année, des milliers de personnes passent par ces portes et c'est vraiment un point de référence au village de Sutton, ainsi qu'un lieu de rencontre et d'épanouissement. Pour esquisser un portrait de ce centre d'art qui est toujours en mouvement, j'ai été rejoint par plusieurs invités de tous les âges pour partager qu'est-ce qui les anime à contribuer à la mission de l'École d'art.
Je m'appelle Sophie Bourque et je suis la présidente du conseil d'administration de l'École d'art de Sutton depuis le printemps 2024.
On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Tout le plaisir est pour moi.
Qu'est-ce qui t'a amené vers l'École d'art?
Ce qui m'a amené vers l'École d'art, c'est comment cette institution, parce que je pense que c'est vraiment devenu une institution dans la communauté de l'Estrie, c'est vibrant, c'est rassembleur, c'est nécessaire. C'est, évidemment, c'est une école d'art. Alors, c'est une institution qui est créative, mais même dans son administration, dans ce qu'elle propose. À chaque fois que je viens dans les lieux de l'école d'art, qui sont, comme on sait, dans l'ancienne laiterie de Sutton, qui en soi est un bâtiment qui parle dans la région, il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de différent. Et je trouve à chaque fois que c'est de plus en plus beau. Alors, c'est finalement un désir de pouvoir participer à la hauteur de mes compétences, puis à l'évolution, puis à la suite de ce beau projet-là.
Oui, c'est absolument vrai. C'est une institution qui rayonne dans la région et qui, tous les ans, augmente son côté rassembleur, les projets ambitieux. Et qu'est-ce que tu vois pour le futur de l'École d'art?
Je lui vois un futur grandiose! Il y a tellement de projets en ébullition, il y a tellement de possibilités. La directrice Anne-Marie Lavigne, qui est une fille absolument formidable, qui tient ça sur ses épaules, on lui doit, la communauté lui doit vraiment une fière chandelle. Mais on parle de résidence d'artistes, on parle de faire venir des artistes à l'international, on parle de faire évoluer le petit Salon du Livre. Moi, je pense que le Salon du Livre de Montréal n'a qu'à bien se tenir. Alors, à partir du moment où on va assurer une pérennité financière, parce que c'est une organisation sans but lucratif, et comme toutes les organisations sans but lucratif, a besoin de l'aide de la communauté puis de l'implication des mécènes, je dis sky's the limit là, pour l'École d'art. La mission, il y a différents volets à la mission de l'École d'art, et ces différents volets-là regroupent artistes et enfants. Alors, à l'origine, l'idée de départ était de mettre en contact les enfants avec des artistes établis afin de montrer aux enfants et de les éveiller à l'importance de l'art. C'est facile, hein, de laisser passer l'art en dernier dans nos préoccupations quotidiennes, mais l'art, c'est fondamental. Je me rappelle d'un professeur à l'université, moi j'étudie en droit, et qui nous avait dit, et sans insulte à personne, là, il avait dit « Un avocat pas de culture est un maçon, un avocat avec de la culture est un architecte. » Et les maçons font aussi des choses extraordinaires, là, mais l'idée, c'est de dire qu'il faut... Pour faire une société puis une collectivité qui est viable, qui est bienveillante et qui est prospère, il faut mettre tout ça ensemble. Tout ça interagit ensemble et c'est l'idée était de l'enseigner très tôt. C'est aussi un lieu de diffusion, partie de la mission de l'École d'art, c'est de diffuser les œuvres des artistes de l'Estrie. C'est pas juste limité à Sautune, dans sa mission, c'est également de l'Estrie. Et c'est aussi de mettre ces installations et d'être au service de la communauté. Alors, les locaux de l'École d'art, c'est comme une boîte de Pandore, là, ça se transforme là, comme on veut. C'est absolument formidable. On peut revenir autant de fois qu'on veut dans une année, l'école ne sera jamais pareille. Et c'est de la mettre au service de la communauté et au service des communautés, parce qu'il y a la communauté francophone, il y a la communauté anglophone et on sait comment ça cohabite bien dans la région. Alors, c'est important pour nous d'être ouverts à toutes les communautés de l'Estrie.
Merci beaucoup à Sophie Bourque. Et maintenant, on va discuter avec Charlotte Lavigne-Bernard, la fille de la fondatrice Anne-Marie et impliquée à l'École d'art depuis son tout début.
C'est vraiment incroyable de voir. Ma maman m'a poussé à suivre mes passions en art. Maintenant, elle a donné des camps pour encourager les jeunes à faire pareil. Puis, je connais pas beaucoup de camps spécialisés dans l'art et je trouvais ça vraiment amusant d'en voir un qui s'adresse à la fois aux jeunes et aux plus vieux. Surtout que cela a commencé tout petit dans un petit village avec une petite population. Vraiment un énorme potentiel. Déjà que c'est un véritable centre d'innovation créative, je trouve que c'est attirant de voir de plus en plus de talents dans les années à venir. Et je trouve ça impressionnant de voir ma maman qui a commencé sur une petite base, grandir, puis prendre de l'ampleur à chaque étape maintenant qu'avec son équipe. L'équipe grandit elle aussi. Donc voilà. L'expérience qui m'a beaucoup marqué à l'École d'art a été lorsque j'avais les opportunités de participer à des expositions collectives, donc au fin des camps de jour, puis que je voyais mes œuvres prendre vie à côté de celles de mes camarades, puis c'est ça qui a renforcé mon amour pour la création puis la collaboration artistique. C'est vraiment super de voir que ça a commencé en 2016 dans ma maison, dans un petit garage avec tout le matériau qu'on avait sous la main, puis que maintenant c'est devenu beaucoup plus gros, que c'est maintenant une bâtisse, que ça a son propre espace pour les camps, puis je trouve ça vraiment formidable de voir ça grandir.
Un grand merci à toi, Charlotte. Et justement, on va écouter un clip qui a été créé dans un des camps d'été DJ pour les 9 à 12 ans. C'est DJ Le Bleuet et Rainy. On est maintenant rejoint par la fondatrice et directrice artistique Anne-Marie Lavigne, qui va nous parler de la genèse du projet, ainsi que ses inspirations et motivations pour créer le Centre d'art.
J'ai comme fonction la direction générale et artistique d'un organisme qui a été fondé il y a bientôt de ça 10 ans, en 2016. Donc, je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui dire qu'on a survécu à tous les aléas. D'un miracle à l'autre, on a réussi à traverser la pandémie. On a réussi à traverser tellement de périodes incroyables avec l'équipe, avec la croissance d'un organisme qui a débuté tout petit et qui maintenant est très grand. Pour l'échelle d'un village, c'est exceptionnel là, de pouvoir rassembler autant d'êtres magnifiques autour d'une mission. Au tout début, c'était une volonté à titre de maman. J'étais enceinte de mon fils et puis j'avais la volonté d'explorer une région magnifique, donc les cantons de l'Est. C'est une région superbe, une région agricole, avec un nombre incroyable d'artistes, de studios dans les granges, de jardins magnifiques, de lieux culturels qui sont atypiques et qui sont très chaleureux et conviviaux, donc à une autre échelle. Et c'était vraiment pour moi le parcours d'une pleine année à observer, à écouter, à découvrir. Et j'avais la chance de parcourir la région avec ma fille, qui avait à l'époque 7 ans, donc de lui permettre d'avoir des cours de ballet, des cours de piano, des ateliers dans les champs, des ateliers de dessin, les chorales. Donc, c'était vraiment comme une exploration de tout ce que la région a de meilleur à offrir pour les enfants. Mais c'était très exigeant aussi en termes de déplacement parce que la région est immense. Donc, il fallait se déplacer en voiture à des heures qui étaient très atypique. Chaque cours ou chaque activité exigeait une pleine disponibilité de ma part comme parent envers moi. Je me suis dit que s'il y avait une chose à faire pour soutenir la communauté, c'était de rassembler sous un même toit plusieurs disciplines pour s'assurer que pour un parent, autant que pour un enfant, c'était facile d'accéder à toute la richesse du territoire, mais dans un seul lieu. Donc, on a commencé tout petit dans un garage sur la rue Western à Sutton. Et c'était l'occasion d'avoir l'approbation de la communauté qui était heureuse d'envoyer les enfants passer leur semaine dans ce petit garage où on réunissait les enfants avec des artistes. C'était tout simplement ça, un lieu l'été pour offrir aux enfants des activités, des occasions de création supervisées par des artistes incroyables. Donc en architecture, en photographie, en cinéma, en sculpture, en dessin, en peinture, c'était vraiment le camp des arts. La communauté a répondu positivement et ça m'a donné la force de déménager le projet dans un très grand garage, immense garage. En discutant avec les artistes, on a réalisé que c'était important d'avoir qu'est-ce que les artistes ont besoin. Ils ont besoin d'espace, donc de très grands plafonds, très grands planchers, une belle luminosité, une multitude de configurations possibles. Donc pour les espaces, puis aussi un lieu qui permet de faire de la peinture, de la sculpture, de la soudure, des ébénisteries, donc vraiment comme être très flexible et avoir accès au monde extérieur, donc à la nature, les arbres, la rivière. Et puis l'ancienne crèmerie, c'était un lieu très délabré, abandonné, on peut dire, et qui faisait un peu peur. Quand des amis m'ont avisé que ça existait, que ça serait un lieu superbe pour l'école d'art, et en faisant le tour de la bâtisse, j'ai réalisé que j'étais mariée à un projet. c'était un coup de cœur majeur. J'ai parcouru les salles, c'était un lieu d'entreposage vraiment très sale, rempli de choses vieillottes. Il y avait des monticules, des collines de débris, puis c'était à l'abandon. Mais, et c'est là où la vision est importante, au-delà de l'état des lieux, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager, de découvrir des musées, des galeries, des foires d'art contemporain, de travailler avec des artistes, de visiter les studios. Donc pour moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai pas vu l'état des lieux comme étant un frein au projet. J'ai au contraire vu la possibilité de prendre soin d'un lieu historique qui devait être revitalisé parce que l'ancienne crèmerie, c'est le cœur économique de Sutton. Les fermes environnantes avaient plus de vaches que d'êtres humains là, dans la région. C'était la production du lait à son apogée. Il y avait toute une économie qui tournait autour de cette production-là laitière. C'était vraiment un moteur économique pour Sutton parce qu'il y avait plusieurs emplois qui étaient générés par les Et c'est grâce à cette fortune-là qui a émergé là, des produits laitiers Sutton, de l'ancienne crèmerie, grâce à une famille, la famille Boulanger. C'est grâce à ça qu'ils ont été capables d'acheter une montagne et d'avoir la vision de développer un lieu, une destination touristique pour les skieurs. Alors, c'est une famille qui a transformé le village vraiment de façon importante. Donc, de raser l'édifice, je crois qu'on aurait perdu notre mémoire collective. Et notre mémoire, elle doit être célébrée, elle doit être mise en valeur. Mis à part le projet d'école d'art, j'ai un amour pour le bâtiment qui est très grand. Je veux en prendre soin, puis garder ses traces, garder ses cicatrices, garder tout ce que le travail du temps sur le bâtiment. On veut préserver les traces de l'histoire sur le bâtiment le plus possible, tout en offrant un lieu qui est sécuritaire et aménagé adéquatement pour recevoir les enfants et les artistes. Pendant mes études universitaires, j'ai eu le bonheur de lire et de découvrir que les artistes, d'une génération à l'autre, ont porté un regard sur le monde. Et c'est un regard qui peut aussi nous aider à questionner notre statu quo, notre mieux vivre ensemble, notre savoir vivre ensemble comme société. Il y a un moment, étonnamment, l'École d'art s'est installée dans la crèmerie en 2019. Et 100 ans plus tôt, le Bauhaus a émergé. En 1919, donc un siècle plus tard, nous, avec beaucoup de à la campagne à Sutton, on peut peut-être être porteur de ce message-là que on souhaite avoir des ateliers artistiques qui ne sont pas il n'y a pas de hiérarchie entre les disciplines. C'est-à-dire que pour nous, les arts culinaires sont tout aussi importants que l'architecture et que la poésie est aussi importante que les arts du monde vivant, donc les plantes, le travail dans les jardins. On souhaite aussi signaler que les artistes peuvent travailler de façon multidisciplinaire parce que on priorise, oui, il y a des studios, il y a des ateliers spécifiques, par exemple, pour une production en céramique, mais le céramiste, en parlant avec le photographe, peut-être générer un projet qui est d'innovation ou peut-être réveiller la discipline respective de chacun des artistes. Donc, c'est important de comprendre que le projet d'atelier à l'École d'art, sous un même toit, permet ces rencontres-là, non pas juste entre les artistes et les enfants, ou les artistes et la communauté, mais aussi entre eux. Donc, entre les artistes, il y a des rencontres possibles. Les besoins demeurent les mêmes. C'est un besoin d'émerveillement. Mmh. Ça, c'est une dimension magique qui traverse les âges. Donc, le besoin de s'émerveiller, de faire une introspection. J'ai une tante qui était très chère pour moi parce que c'est elle qui m'a acheté mes premières encres, puis elle m'a fait découvrir sa pratique comme peintre, et elle considérait que l'art, c'était l'expression d'un geste qui est libre. Donc c'est vraiment très important de considérer le travail d'un artiste comme étant une gestuelle. Donc la manifestation, tu sais, les idées sont abstraites, mais elles se manifestent dans la matière. Donc, comment on fait pour passer d'une idée à sa manifestation dans la matière? C'est à travers les mains. Et ça, c'est extrêmement important pour le développement du projet de l'École d'art. Surtout, nous avons le besoin de nous écarter des écrans et d'avoir un lien avec d'autres sens de notre corps. Là. Le toucher, le goûter, les textures, l'odorat, le son. Il faut vraiment que l'art soit multisensoriel et pas uniquement relié à une compréhension intellectuelle, visuelle, à travers un écran. Parce que c'est pas qu'un est meilleur que l'autre, c'est juste qu'un nourrit l'autre. Et puis, il faut savoir explorer et voyager avec ses sens, avec tous ses sens. Donc, l'art, comme étant l'expression d'un geste libre, c'est aussi l'idée qu'on veut pas demander à un artiste de copier un maître. Parce que l'enfant doit avoir cette liberté-là de s'exprimer en étant en contact avec son intériorité. Donc, découvrir, l'enfant doit découvrir son identité à travers ses expériences qui sont supervisées ou qui sont encadrées ou accompagnées ou initiées avec ou guidées par un artiste. En mon humble avis, les artistes, c'est les gens les plus intéressants de notre société. Ils sont extraordinaires. On a intérêt à les écouter. On a intérêt à les rencontrer, on a intérêt à les mettre en valeur, à en prendre soin. C'est souvent un travail presque monastique. Il y a très peu d'artistes qui vivent de leur art. Et je crois pas qu'on peut décider d'accorder de la valeur uniquement aux artistes qui vivent de leur art. Je crois qu'il y a des artistes qui ne vivent pas de leur art, qui sont tout aussi importants. Donc, la posture de l'enfant dans le projet de l'École d'art, c'est la base initiale. D'avoir le courage d'oser s'exprimer. Et cette posture-là, l'enfant, c'est de se dire, OK, moi, je ne sais pas dessiner, mais je vais oser essayer de tracer un trait et d'explorer des matières, des textures, des matériaux d'art. Donc, c'est très courageux, OK, pour quelqu'un qui croit qu'il ne sait pas dessiner. C'est très courageux comme geste. Mais d'avoir des enfants autour qui se lancent dans l'aventure librement, ça peut aider un adulte ou un adolescent ou une personne d'un autre âge à se lancer dans l'aventure. C'est très bénéfique pour sa santé mentale et physique. Et je crois que c'est bon aussi pour un artiste professionnel, la posture de l'enfant, parce que parfois, quand ça fait depuis des années qu'on a une pratique ou qu'on a une discipline qu'on développe ou qu'on étudie dans un domaine, c'est tellement bon de retourner sur les bancs de l'école, de réapprendre, de se laisser guider, de se laisser surprendre, de revisiter ses acquis, d'avoir à expliquer qu'est-ce qu'on fait à un enfant, ça nous oblige à revenir à l'essentiel, puis sans vulgariser et simplifier à outrance, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui est important? Comment je vais expliquer mon travail à un enfant? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le message? C'est quoi mon intention? Et là, on revient à une idée fondamentale, c'est que chaque être a une démarche artistique différente. Si je donne l'exemple d'enseigner la photographie, on n'est pas une école d'art où on va enseigner de manière académique parce que ça, il y a d'autres écoles qui ont ce mandat-là précis d'enseigner une technique avec des analyses, des examens. Il y a comme une analyse de performance. Nous, c'est un éveil. Donc, c'est plutôt de découvrir la photographie à travers les yeux d'un artiste, à travers la réflexion ou le positionnement, la perspective d'un artiste. Et c'est ça qui est très riche, c'est de se ramener à l'individu qui a un parcours unique et la rencontre, à ce moment-là, elle ne peut pas se reproduire dans le temps. Donc, on est tous remplis de gratitude quand on vit un moment de rencontre avec un artiste. Parce qu'on sait que c'est unique, que ça ne se reproduira pas et que personne dans l'univers vivra ce qu'on va vivre. Par exemple, pendant un atelier ou pendant une semaine de camp des arts. Alors, je veux juste souligner l'importance de cette base-là, qui est comme le fondement là, tu sais, de toute notre énergie là autour du monde des arts, parce qu'on n'est pas, on relève pas des beaux-arts, on relève pas d'une vision de la spéculation des marchés comme en galerie, on n'est pas intéressé par les résultats, on est intéressé par le processus artistique. L'origine de la création, qu'est-ce qui nous réveille, qu'est-ce qui nous éveille?
Maryse Le Gagneur, harpiste.
Vous écoutez Portrait vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et de CIDI 99.1 FM en Estrie. C'était Le Courant par Serge-André Jones. On va continuer les entrevues avec Luc Courchesne, un artiste éminent québécois et membre du CA de l'École d'art de Sutton.
Alors, mon nom est Luc Courchesne. Je suis nouveau à Sutton depuis 4 ou 5 ans. J'ai acheté une maison ici. Je vis entre Sutton et Montréal. Mon atelier est en plus à Montréal. À Sutton, c'est plus mon nouveau cadre de vie. Je découvre un village très, très exceptionnel, en fait, par la qualité des gens. Et ça m'inspire beaucoup. Alors, moi, je suis né à Saint-Léonard-d'Assun-Côté-Nicolette. J'ai quitté mon village à l'adolescence pour étudier à Montréal. Et puis, je suis en voyage depuis ce temps-là. J'ai vécu un peu partout en Europe. Et aux États-Unis. Et puis maintenant, je suis plutôt basé ici à Sutton. Ma pratique, c'est plutôt les arts numériques. J'ai été impliqué avec d'autres personnes dans la fondation de la Société des arts technologiques à Montréal, qui est une très belle chose imaginée par Monique Savoie et qui s'est très, très bien développée depuis 25 ans. Et donc, quand j'ai vu à Sutton le projet d'école d'art d'Anne-Marie, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on avait rêvé pour la SAT, c'est-à-dire un lieu très ouvert. À la base, c'est la création, c'est la remise en question que les artistes font quotidiennement avec une orientation vers les enfants, c'est-à-dire créer, travailler pour les enfants, mais les mettre en relation avec des artistes professionnels dans toutes les disciplines, l'architecture, les arts visuels, la musique, l'édition. Et puis, c'est une mission qui m'enthousiasme. Et donc, quand Anne-Marie m'a invité sur le conseil d'administration, j'ai dit absolument oui. Et notre projet, en fait, comme conseil, c'est de construire une organisation sur des bases solides et qui va survivre à ses fondateurs. Donc, on est là pour le long terme. Mais à court terme, on profite de toutes les idées de Roger et d'Anne-Marie, de faire un petit salon du livre, les printemps de l'architecture, les camps, magnifiques camps de jour l'été. Donc, c'est vraiment une très bonne base sur laquelle construire. J'ai déjà fait 2 camps de jour autour de la réalité virtuelle et ça s'est super bien passé avec des jeunes de 9, 10, 11, 12 ans, jeunes adolescents. C'est les outils qui sont leur avenir, en fait. Dans leur boîte à outils, il y a l'informatique, il y a ces nouveaux moyens de se mettre en immersion. Et donc, c'était un peu ma quête d'artiste à travers toute ma carrière de prof et créateur aussi. C'est d'essayer de faire exploser le cadre du tableau, le cadre du cinéma, le cadre du téléphone, de l'écran d'ordinateur pour se mettre en immersion, transformer le cadre en porte, en fait, pour entrer à l'intérieur. Donc, les enfants, aujourd'hui, comprennent ça naturellement, et puis c'est très facile de les amener à réfléchir sur l'espace. Moi, bon, je me vois plus comme un artiste visuel, mais l'artiste visuel qui devient architecte, en fait, d'un espace dans lequel on invite les gens. Je pense qu'on apprend plus des enfants qu'ils apprennent de nous. Parce que on peut leur dire, bon, où on est, qu'est-ce qu'on a, on les met sur des pistes, puis là, tout à coup, leur imagination éclate. Par exemple, en une semaine, je leur expliquais en gros qu'est-ce qu'on avait comme dans notre boîte à outils, et ça prenait seulement quelques minutes avant qu'ils aient des idées de ce qu'on fait, puis ensuite, on pouvait le faire. Donc, on a réussi à faire des projets. Tu sais, on parle aujourd'hui, c'est des choses qui, pour des adultes, ont de l'air, tu sais, le concept de jumeaux numériques que l'intelligence artificielle ou les technologies d'immersion permettent, c'est compliqué pour des adultes, mais pour eux, ça faisait sens. Dans le sens qu'on, par exemple, moi, j'ai simplement dit, on va faire une course au trésor, on va cacher un trésor dans l'école d'art, et puis pour trouver le trésor, il va falloir aller en réalité virtuelle, faire un jumeau numérique de l'école, et puis résoudre les énigmes là-dedans, puis une fois qu'on l'a résolu en réalité virtuelle, on va trouver le vrai trésor dans la vraie école. Ils ont compris ça en 30 secondes, puis on a passé la semaine à construire l'expérience. Donc, c'est ça que j'aime chez eux, c'est qu'ils n'ont aucun a priori, ils comprennent très vite à quoi peuvent servir ces outils. Puis à partir du moment où on a planté cette graine-là en eux, ils peuvent développer des carrières formidables. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans le design à l'Université de Montréal. Puis, je disais toujours à mes étudiants, on peut vous dire comment ça se passe aujourd'hui, mais on ne peut pas vous dire comment ça va se passer dans 5 ans ou 10 ans. C'est vous qui allez nous le dire. Donc, on est en recherche, tout le monde, pour trouver, à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, comment on invente notre avenir. Alors, plus ils sont jeunes, plus ils ont du temps devant eux. Et c'est pour ça que pour moi, enseigner ou accompagner plutôt des enfants de 10 ans, c'est aussi valorisant que d'accompagner des jeunes de 20 ans ou 30 ans. La seule chose, c'est qu'ils ont plus de temps devant eux pour réaliser de grandes choses.
Merci Luc et merci à Maryse Le Gagneur, harpiste résident à Sutton, qui nous permet d'utiliser ces clips magnifiques qui ont été enregistrés live au Petit Salon du Livre. On a avec nous encore des invités sur cette émission, sur la mission et les valeurs, l'École d'art de Sutton. On va rencontrer Marie Bilodeau, artiste et graphiste résident à Abercorn.
Je suis Marie Bilodeau. Je suis designer graphique. Je fais l'illustration aussi. Je travaille en design graphique avec l'École d'art depuis qu'Anne-Marie est dans le garage chez elle, qu'elle a parti l'école, je pense, 8 ans à peu près. Tu sais, quand j'ai rencontré Anne-Marie puis qu'elle m'a présenté son projet, qui était déjà né, tu sais, c'était déjà un beau petit bébé, qui avait déjà un logo, qui avait déjà une petite base d'identité. Mais les quelques projets sur lesquels j'ai embarqué avec Anne-Marie au tout début étaient aussi audacieux qu'improbables. Puis, à chaque fois que je faisais un petit projet avec elle, sa vision super inspirante se réalisait. Puis, je trouvais ça incroyable. Puis, ça fait 8 ans. Puis, Anne-Marie continue ça, d'avoir des idées audacieuses et improbables. Puis, tu sais, évidemment, l'art, la littérature, les jardins, tous les volets de la programmation touchent à des passions personnelles que j'ai. C'est toujours trippant de travailler sur les projets d'Anne-Marie. Oui. Tous ceux qui visitent le lieu, ouais, c'est le...
T'es une personne très créative.
Ouais.
Unique.
On est parti de petits projets un peu détachés les uns les autres, des belles idées, puis il y a des projets qui se sont déployés plus que d'autres dans la programmation, puis il y a des constantes qui se sont installées aussi au fur et à mesure des années. T'sais, on le dit souvent, là, on utilise l'expression « on construit l'avion en plein vol ». L'identité visuelle de l'école s'est créée en chemin avec ce côté ludique-là, puis ça fait quelques années qu'on l'a comme canné un petit peu plus avec un langage graphique défini qui va comme emballer l'ensemble de la programmation sous un grand chapeau avec ces icônes-là, entre autres, dont tu parles. Puis oui. Nos couleurs super saturées des grandes masses de couleurs en ampleur. Je me souviens du jour où Anne-Marie m'a dit « Viendrais-tu avec moi? » Puis Christian Beaulieu, le cuisinier, qui était sur d'autres projets à l'époque, « On s'en va visiter un lieu, puis j'ai envie que tu rêves avec nous, tu sais. » Fait qu'on a été visiter le lieu qui était encore une usine toute crottée, pleine de stock, là. Tu sais, le lieu, on l'a comme bricolé au fur et à mesure. Puis encore une fois, tu sais, avec l'audace d'Anne-Marie, on voyait ce qu'elle avait en tête, hein. On y rêvait, puis petit bout par petit bout, elle l'a épuré, puis elle en a fait ce que c'est devenu, des grands espaces, un peu tout nu, un peu tout croche, dans lesquels tout peut se produire. Ben, c'était du rêve, c'est de pouvoir bricoler des idées avec peu de moyens, mais aussi beaucoup, beaucoup de liberté pour créer ces écrins-là où des choses tripantes peuvent se passer. Puis, tu sais, c'est un lieu, Aimerait disait ça dernièrement, tu sais, qu'elle voulait... qu'elle appréciait préserver ce côté inachevé de l'école. Tout est un peu tout croche et complètement charmant. Parce que ce côté inachevé-là, il laisse la place pour les enfants ou pour les gens qui le visitent puis qui viennent créer là. Il laisse la place pour que chacun y mette de soi puis bricole quelque chose dans ce lieu-là. T'sais. Je pense que c'est ce côté inachevé-là que j'aime beaucoup. Puis quand on rêve à plus loin, quand le projet sera plus achevé, j'espère qu'on trouvera un moyen de continuer à préserver un peu d'inachevé puis d'espace pour continuer de se sentir libre, en fait.
Martin Laporte, je suis photographe, vidéaste. En fait, j'ai étudié en photo, cinéma. Puis, je pratique les deux parallèlement depuis 25 ans. J'enseigne la photo et la vidéo. Et j'habite dans la région de Sutton, ça fait près de 25 ans aussi. Donc, c'est ma région. Je connais bien les jeunes. J'ai eu 3 enfants. Maintenant, ils sont rendus des adultes. Fait que je connais bien les jeunes. Je suis beaucoup intéressé par la créativité chez les jeunes, puis je pense que c'est un besoin qu'on a en tant que jeune, puis il faut avoir l'opportunité de s'exprimer avec notre créativité. Un peu comme Anne-Marie qui a des enfants, fondatrice. Moi, j'avais mes enfants, puis là, je voulais exposer le plus possible mes enfants à l'art. Comme à l'école, c'est très peu mis de l'avant, donc ça, je voulais un endroit où est-ce que mes enfants pouvaient rencontrer des artistes et apprendre des choses, faire des camps d'art ou se développer, trouver leurs affinités, trouver ce qu'ils aiment pour s'exprimer. Donc, les exposer à plusieurs types d'art. Donc, j'ai fait faire de la musique, la peinture, de la photo, de la vidéo, tout ça. Donc, avec Anne-Marie, c'est ça. On a décidé de faire des camps comme ça, puis essayer de toucher au domaine artistique le plus différent possible pour exposer nos enfants, en fait, à des gens, puis à des milieux qui sont plus occultés là, dans la vie de tous les jours. Au début, Anne-Marie pensait plus à trouver des endroits singuliers, des endroits vraiment définis, particulièrement pour les champs d'activité. Et puis moi, je voyais pas cette division-là nécessaire. Je trouve que c'était plus propice d'avoir un lieu général où est-ce que toutes les disciplines sont près l'une de l'autre et tu peux même justement partager dans un camp d'art de photo, partager un peu l'espace de la peinture, partager un peu ce qu'ils font en peinture, prendre en photo des portraits des peintres, tu sais, être inspiré. Moi, mon approche souvent aussi comme prof, c'est ça. Et mettons que je suis prof en photo, mais je demande à mes étudiants de trouver des inspirations qui ne sont pas de la photo, des inspirations architecture, peinture, autre que la photo pour permettre de définir leur propre vision.
Un peu comme la vision du Bauhaus, d'avoir toutes les disciplines dans le même bâtiment.
C'est la communication, la communion, en fait, le partage des connaissances, c'est très inspirant pour quiconque, en fait, qui côtoie quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Ben, c'est une inspiration, même si on n'a pas dans notre esprit ce sujet-là en particulier. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, c'est toujours inspirant.
100%. Merci beaucoup, Martin.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez l'émission Portrait vivant, une émission qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté créative de l'École d'art de Sainte-Anne, une émission diffusée en podcast et sur les ondes de CIDA 99.fm en Estrie. Voyagez avec nous à travers ces émissions pour rencontrer des personnes inspirantes et créatives de tout âge. On collabore avec des jeunes ainsi que des artistes établis. Cette émission, c'est vraiment des rencontres, aller chercher de l'inspiration, de s'ouvrir et de s'épanouir. Et j'espère que cette heure vous a apporté des nouvelles perspectives. La dernière entrevue de la journée, ça sera avec Jérôme Lapierre, architecte. On parlait de personnes qui sont passionnées de ce qu'ils font. Je pense que ça se ressent beaucoup dans cette entrevue avec Jérôme. On écoute.
Oui, bonjour. Mon nom est Jérôme Lapierre. Je suis architecte de Jérôme Lapierre Architecte, de ma propre firme. J'ai collaboré pendant plusieurs années à l'atelier Pierre Thibault. Pendant une dizaine d'années et j'ai aussi collaboré au projet du Lab École dans lequel on a initié la recherche-création pour concevoir des écoles contemporaines pour le Québec. Et comme j'enseigne également à l'École d'architecture de l'Université Laval, comme chargé de cours, cette notion de recherche-création a été vraiment intéressante dans le contexte du Lab École pour pouvoir un peu insuffler cette notion de recherche avec littérature scientifique, mais aussi avec des projets de création qui répondaient à cette recherche. Donc, d'avoir eu cette période du Lab École au début, au balbutiement du projet, a vraiment permis de pouvoir amener ce projet de société et de faire parler d'éducation à l'échelle du Québec. La philosophie de l'approche du Lab École de vouloir faire ce projet-là, qui est initié par les trois fondateurs, Pierre Pau, Pierre Lavoie, Ricardo Larrivé, était vraiment de changer un peu le paradigme actuel de l'école primaire. Où est-ce que la manière d'enseigner, la manière de faire, que l'école était conçue aussi, a toujours été de la même manière depuis les années 50.
Absolument.
Le modèle d'architecture lui-même n'a pas évolué, malgré qu'il y avait des pratiques pédagogiques innovantes qui s'insufflaient quand même depuis. Même avant la école, on commençait déjà à parler de classes flexibles, mais l'architecture elle-même soutenait pas nécessairement c'est une pédagogie qui est réinventée. Et avec aussi le regard, donc ça a créé trois chantiers. Le chantier, bien sûr, environnement physique et architectural. Le chantier mode de dessin et actif, avec Pierre Lavoie, puis aussi Ricardo pour l'alimentation, pour voir comment est-ce que ces trois volets-là, qui pouvaient s'insuffler dans un univers scolaire primaire, pouvaient changer les choses. Notamment pour mieux bouger, d'avoir une cour d'école qui est beaucoup plus orienté sur le développement psychomoteur, l'altération physique, l'altération motrice, puis de voir aussi comment est-ce que, au niveau de l'alimentation, on pouvait avoir des programmes qui permettaient justement de faire de la pédagogie différenciée et d'apprendre aussi au niveau de l'horticulture scolaire et vraiment de comprendre un peu comment que les fruits et légumes notamment poussent et comment est-ce qu'à travers le fait de manger, cuisiner, mais ça peut être une pratique pédagogique qui amène à parler d'histoire, de culture, de faire des fractions, des mathématiques en coupant les légumes. Donc, il y avait vraiment tout cet aspect-là aussi qui était plus large qu'uniquement parler d'alimentation, de bouger et d'architecture. C'est de voir comment est-ce que ces trois volets-là ensemble permettaient d'insuffler une nouvelle vision qui était bien sûr aussi inspiré de pratiques pédagogiques innovantes qu'il y avait un peu partout dans le monde. Le rôle de l'art, en fait, dans le contexte du Lab École, était quand même présent un peu partout. Je pense que, notamment, de s'entourer, ce n'est que pas ça, bien sûr, mais s'entourer de beaux, s'entourer d'écoles bien réfléchies, bien pensées, une école qui est bienveillante aussi. Je pense que c'est quand même des thématiques philosophiques qui sont interreliées nécessairement à l'art, à l'architecture.
Absolument.
De pouvoir avoir cet environnement physique-là qui est plus humain, plus favorable, où est-ce qu'on est en contact davantage avec des choses simples, des écoles qui sont plus lumineuses, bien, permettait en fait de pouvoir mettre des choses en valeur, admirer justement cet environnement physique-là de meilleure qualité qui, au final, fait en sorte qu'on est plus ouvert, plus généreux, plus apte à pouvoir apprendre. Il y a la notion d'inclusion des œuvres d'art dans les projets publics, notamment. Je pense que aussi d'avoir une école qui sort la pédagogie de sa classe elle-même, parce que l'idée, à travers une diversité de nouvelles typologies d'école, quand je parle de typologie, c'était avant, on avait l'école avec le corridor central, les classes de chaque côté, les assistants dans le corridor. En rebrassant un peu tout ça, puis en découvrant que l'école pouvait être organisée de différentes manières pour favoriser la collaboration, pour favoriser aussi des projets autres, bien, quand on sort de la classe et qu'on se met à collaborer, qu'on se met à faire du co-teaching, qu'on se met vraiment à travailler d'une manière différente, bien là aussi, ces projets d'art pouvaient aussi apparaître à travers de nouvelles pratiques pédagogiques plutôt qu'un enseignement magistral où est-ce qu'on enseignait à des élèves dans des bureaux en randonnant. Donc, juste même la manière dont l'architecture, elle réfléchit, elle devient un troisième enseignant pour soutenir des pratiques différentes. Puis je pense qu'il part un environnement qui est bienveillant, de meilleure qualité, plus chaleureux. Bien, en sorte, on est plus ouvert comme humain. et on est capable d'apprécier davantage ce qu'il peut nous offrir. Donc, je pense qu'à travers ça, ce qu'on apprécie à travers l'art aussi, c'est comment est-ce que ça nous fait entrer dans un univers, dans que ça nous fait apprécier les choses, que ça nous fait vibrer, faire vivre des émotions. Et je pense que l'architecture peut faire aussi quelque chose qui est similaire à ça.
Voilà qui conclut notre émission de Portrait vivant. J'espère que vous avez voyagé avec nous et que ça vous a offert des nouvelles perspectives et de nouveaux apprentissages. On a une émission par semaine pendant 24 semaines. On a très hâte de vous présenter nos collaborateurs et nos invités de tout âge. On va continuer avec cette pièce magnifique par Patrick Simard et Gaia Yu, des artistes locaux. Merci pour votre écoute.
Into this golden age. as one we rise, and as one we rise. It's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time. Each time, each time, each time, each time, each time, each time, we rise.
Oh, it's time,
it's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time,
it's time, we rise. Each and every time,
each time, each time,
each time, each time. We rise, we rise, oh, oh, oh,
we rise,
let's rise, not just for me,
we rise,
not just for me.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.